VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30, temps universel, ce vendredi 16 février 2018, au sommaire. Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé son premier discours devant le Parlement. L'état d'urgence décrété en Éthiopie au lendemain de la démission du Premier ministre. Au lendemain, au moins 6 soldats congolais ont été tués dans des combats avec des militaires rwandais, selon un responsable des FARDC. Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées dans une attaque de bandits dans un village de l'état de Zamfara. Et puis 13 Russes inculpés aux États-Unis pour leur ingérence présumée dans les élections américaines. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Le gouvernement éthiopien a décrété ce vendredi l'état d'urgence avec effet immédiat au lendemain de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn. On ignore pour combien de temps l'état d'urgence est instauré. Cette annonce intervient au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haïlé Mariam, qui doit toutefois rester en place jusqu'à la désignation de son successeur à une date pour le moment inconnue. Le tout nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa présente les grandes lignes de son plan d'action dans son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement sud-africain. C'est au lendemain de sa prise de fonction. Le point avec notre correspondante sur place, Patricia Huon.
Cyril Ramaphosa vient effectivement de terminer son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Dans celui-ci, il a exprimé sa volonté de construire une société meilleure pour tous les Sud-Africains. Il a rappelé sa promesse de s'attaquer à la corruption, assurant que ceux qui avaient commis des crimes à ce niveau seraient punis et qu'une commission d'enquête sur la capture de l'État commencerait bientôt son travail. Il a aussi longuement évoqué la nécessité de travailler à réduire la pauvreté et les inégalités. Il tend la main aux investisseurs étrangers. Il a mis sur la table aussi des mesures concrètes pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Mais il a cependant également donné des garanties sur l'éducation gratuite promise par le gouvernement de Jacob Zuma, le maintien des aides sociales ou encore sur la transformation économique radicale, soit une réduction des inégalités économiques et raciales. Il a aussi promis d'accélérer la redistribution des terres sans compensation si nécessaire. Après ses promesses, Cyril Ramaphosa va maintenant devoir prouver qu'il est aussi en homme d'action.
L'armée congolaise affirme avoir perdu 6 éléments lors d'accrochages avec des soldats rwandais en territoire congolais. Ces combats se sont déroulés dans l'est du pays lors d'une incursion de soldats rwandais, selon un général congolais. Le point avec John Lindon.
L'armée congolaise a enregistré 6 morts dans ses rangs et 4 blessés, dont 2 graves, d'après le général Bruno Madimvu, commandant de l'opération Sokola 2, chargé de la traque des rebelles Hutus rwandais des FDLR. Alors que nous avions observé l'ordre de cesser le feu venu de Kinshasa, à la demande des autorités militaires de Kigali, les soldats rwandais ont continué de tirer, faisant 6 victimes dans nos rangs, a expliqué le général Mandevu. Mercredi, les forces armées de la RDC avaient fait état de violents combats près de la frontière avec le Rwanda. L'armée congolaise a accusé des troupes régulières rwandaises d'avoir occupé des positions à l'intérieur des frontières congolaises. L'Est congolais est déchiré par des conflits depuis plus de 20 ans. Des dizaines de troupes armées, soutenues parfois par des pays voisins, se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles.
Et puis l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga dénonce la lenteur avec laquelle se déroule son procès devant la haute cour militaire congolaise. Livré en 2007 à la Cour pénale internationale, il a été condamné en 2014 à 12 ans de prison pour complicité de crimes de guerre pour l'attaque d'un village en 2003. Transféré à Kinshasa en décembre 2015, Monsieur Katanga devait sortir de prison le 18 janvier 2016. Le même jour, les autorités congolaises ont indiqué qu'il ne serait pas libéré et que des poursuites avaient été ouvertes contre lui. L'opposition burundaise dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Dans le nord du Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées par un gang armé dans un village de l'état de Zamfara, selon la police et les villageois. Nathalie Barche.
La police a évoqué un bilan de 18 morts dans l'attaque qui s'est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi à Birani. Mais deux habitants affirment que 41 corps ont été récupérés avant d'être enterrés. D'après leurs témoignages, des bandits armés en moto ont attaqué un camion transportant des habitants. Ils l'ont arrêté, ont ouvert le feu, tuant tout le monde avant de se rendre au marché où ils ont également tiré sur la foule. Un habitant a dit que les milices de défense avaient ensuite lancé des représailles. Mais selon la police de Zamfara, des chasseurs de Birani avaient tenté d'intercepter la veille un voleur présumé de bétail en brousse et les bandits leur ont alors tendu une embuscade. Les affrontements ont fait des morts des deux côtés, rapporte la police, affirmant que les forces de l'ordre avaient découvert 18 cadavres.
Au Sénégal, 7 ans de prison ont été requis ce vendredi contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de sa mairie. Le procureur Serigne Bassirou Gueye l'a réclamé dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel où Khalifa Sall et ses co-prévenus sont jugés pour le détournement présumé de près de 3 millions d'euros des caisses de la mairie grâce à la production de fausses factures. La défense fera sa plaidoirie à partir de lundi. Le gouvernement guinéen a appelé au réalisme le leader syndical dissident Aboubacar Souma. Le porte-parole du gouvernement Albert Damantan Camara reproche aux enseignants grévistes de réclamer des augmentations de salaire trop élevées et sans distinction entre les enseignants du primaire ou du secondaire. Un tribunal kényan a condamné la veuve d'un imam radical à 10 ans de prison pour avoir fomenté une attaque contre un poste de police à Mombasa, dans le sud-est, en novembre 2016. Selon la juge, l'enquête a déterminé qu'Ania Saïd était en contact avec les 3 assaillantes 5 jours avant l'attaque et qu'elle les avait même provisoirement hébergées. Le groupe État islamique avait revendiqué cette attaque. Le Kenya, la quasi-totalité des attaques djihadistes sont commises par les Somaliens d'Al-Shabaab affiliés à Al-Qaïda.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La justice américaine a inculpé 13 Russes et 3 entités russes pour ingérence dans les élections et le processus politique américain. C'est ce qu'a annoncé le procureur spécial chargé de ce dossier, Robert Mueller. Ils sont accusés de complot en vue de tromper les États-Unis. 3 d'entre eux sont accusés également de fraude bancaire et 5 autres de vol aggravé d'identité, précise le communiqué. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait ce soir en Floride et rencontrer des familles des victimes de la fusillade dans un lycée qui a fait 17 morts mercredi. M. Trump n'a pas précisé quand il allait rencontrer les familles, mais il a prévu de se rendre dans sa résidence de Mar-a-Lago, qui se trouve non loin de Parkland où s'est produite la fusillade. Et puis dans un rare aveu, la police fédérale américaine a reconnu avoir manqué d'agir ayant été avertie de la dangerosité potentielle de Nicolas Cruz, le jeune homme qui a tué mercredi 17 personnes dans un lycée de Floride. Le FBI a précisé avoir reçu le 5 janvier un appel d'un proche de Cruz qui a décrit son comportement déviant et son intention de tuer des personnes. La conférence sur la sécurité à Munich, grande réunion annuelle rassemblant responsables diplomatiques et militaires, a ouvert ses portes. L'Europe se retrouve face à l'administration américaine suite aux inquiétudes exprimées par Washington sur le projet de défense européen. Reste Girondin.
Une 20aine de chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et de la Défense sont dans la capitale bavaroise pour ce rendez-vous annuel sur la sécurité. Une forte délégation américaine s'inquiète du projet de défense européen. Le tandem franco-allemand, les ministres de la Défense persistent et signent. L'Europe doit se doter d'une autonomie stratégique pour se défendre tout en restant fidèle à l'OTAN. L'Union européenne a lancé en décembre une coopération militaire inédite pour développer des équipements et des armements. Le président français Emmanuel Macron appelle par ailleurs à la création d'une force commune d'intervention européenne capable d'agir hors des structures de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rappelé que la relance de l'Europe de la défense ne devait pas empiéter sur les prérogatives de l'Alliance. Nous saluons ces efforts du moment qu'ils ne concurrencent pas, mais complètent les efforts de l'OTAN, a-t-il souligné.
Quelques milliers d'Israéliens ont réclamé la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de la première manifestation à Tel Aviv, depuis que la police a recommandé son inculpation pour corruption. Bye bye Bibi, pouvait-on lire sur certains posters en hébreu. Un commandant d'un groupe djihadiste a été tué ce vendredi par une faction rivale dans l'ouest de la province d'Alep en Syrie, ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis un tribunal turc a condamné la prison à vie trois journalistes de renom pour leur implication dans la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Ils ont nié toute implication dans le putsch avorté, mais ils ont été condamnés avec trois autres co-accusés à la prison à perpétuité dans le cadre de ce procès critiqué par le défenseur des droits de la presse. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Jean-Roger Bion qui nous présente la Minute Écho.
Le Parlement tunisien a validé jeudi la nomination d'un nouveau gouverneur pour la Banque centrale, Marwan El Abassi, ex-économiste de la Banque mondiale, après la démission la veille de son prédécesseur en raison d'une polémique. Mes principales inquiétudes sont l'inflation, le déficit de la balance des paiements et l'économie parallèle, a déclaré devant le Parlement M. Abassi, qui était depuis 2010 le représentant de la Banque mondiale en Libye. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a abandonné de nombreux impôts précédemment inclus dans l'annexe fiscale 2018, suite à un consensus avec le secteur privé. Les dispositions abrogées concernent la taxe sur les transferts d'argent, l'aménagement sur l'impôt synthétique et le relèvement des seuils de l'impôt minimum forfaitaire, selon le communiqué du dernier Conseil des ministres du gouvernement ivoirien. Ces taxes faisaient partie des principales pierres d'achoppement entre l'État et le secteur privé. Et le Fonds africain de développement du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, va recevoir un prêt de 700 millions de dollars de la part du Japon. Les fonds qui seront décaissés dans le cadre d'un accord entre l'Agence japonaise pour la coopération internationale et le FAD devraient permettre à l'institution panafricaine de soutenir les plans de développement des pays les moins avancés et les plus pauvres d'Afrique.
Et on retrouve Eric Manirakiza pour cette dernière page des sports. Eric, rebonsoir.
Rebonsoir Abdou.
Et on jette un regard sur le mercato d'hiver. Les indemnités du Big Five ont flambé de plus de 70%.
Plus de 979 millions de dollars investis dans les transferts. Abdou, le Big Five européen comprend les clubs anglais, espagnol, allemand, italien et français. Il y a eu 3317 transferts internationaux en janvier 2018. C'est l'Angleterre qui a le plus dépensé à hauteur de près de 483 millions de dollars.
Le détenteur des droits télé du foot espagnol sous le contrôle chinois.
Le groupe chinois Orient Antai Capital a pris 53% du groupe audiovisuel Imarina Media Pro pour 1 milliard d'euros. En plus des droits pour les matchs en Espagne de la Ligue des Champions et des droits télévisés en Italie, l'accord lui ouvre aussi l'accès au marché chinois.
José Mourinho nie toute altercation avec Paul Pogba.
L'entraîneur de Manchester United qualifie de mensonge et des spéculations sur une éventuelle bisbille avec son milieu de terrain. Mourinho a rejeté tout conflit sur le poste de Pogba ou son implication dans l'équipe.
Et l'attaquant de Manchester City, Jesus, de retour à l'entraînement.
Le buteur brésilien n'a pas encore joué en 2018 et son entraîneur Pep Guardiola a annoncé son retour à l'entraînement aujourd'hui. Il s'était blessé le 31 décembre contre Crystal Palace.
Et en Italie, Juventus veut gagner contre Torino pour oublier Tottenham.
Tout à fait. L'objectif numéro 1 reste le 7e Scudetto après le match nul amer concédé face à Tottenham mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Bianconeri peuvent compter sur le retour de Dybala, absent depuis plus d'un mois.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Minnesota a battu la Lakers en 1971. Milwaukee a perdu face à Denver 123 contre 134 dans la conférence Est. Toronto, Boston et Cleveland sont en tête du classement Et dans l'Ouest, Houston, Golden State et San Antonio se succèdent en haut du classement et c'est tout pour les sports.
Merci beaucoup Eric et passez un excellent week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le Burundi doit tenir en mai prochain un référendum pour réformer sa constitution qui devra permettre au président Pierre Nkurunziza de briguer deux autres mandats à partir de 2020. Son troisième mandat a déjà provoqué une crise dans le pays et Antonio Guterres, patron de l'ONU, a critiqué ce référendum non consensuel. Une bonne partie de l'opposition burundaise est partie en exil. Yacouba Ouédraogo a joint à Bruxelles Frédéric Bamvougi Gumvira, président du Frodebou.
Le président actuel a trompé le public en disant c'est le deuxième mandat, laissez-moi son mandat parce que je ne peux pas continuer, donc pardon. Mais c'était pour tromper le public. Et voilà que maintenant, il cherche non pas le quatrième mandat, mais il cherche à rester au pouvoir parce qu'il veut changer la constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'était une stratégie pour amener son peuple à accepter de force le mandat qui était le troisième anticonstitutionnel et qui était contraire à l'accord d'Arusha.
Qu'est-ce que prévoit l'accord d'Arusha?
L'accord d'Arusha prévoyait qu'il n'y ait aucun président burundais qui dirige le pays au-delà de deux mandats. Et cette clause est aussi reprise par la constitution actuelle.
La campagne officielle ne s'ouvre qu'à deux semaines avant le scrutin référendaire et donc pour le moment il n'y a pas campagne.
Et qu'il y ait campagne ou pas campagne, c'est cela qui est prêché dans toutes les rencontres organisées par le parti au pouvoir, le FNDD-FDD.
Le parti au pouvoir dit entretenir actuellement une campagne d'explication du référendum.
Oui, il entretient une campagne d'explication alors que justement la période de la campagne n'est pas encore là et que mais cependant, c'est cela qu'il fait aujourd'hui parce que le pouvoir a peur que le peuple burundais ne vote pas justement le non. Il sait que c'est un pouvoir pratiquement antidémocratique, c'est un pouvoir antipathique qu'il voudrait voir partir, mais conscient de ça, la solution c'est de dire, eh bien s'il vous plaît, forcez la note, cherchez à intimider pour que tout le monde puisse voter oui. Ce qui le montre aujourd'hui, au-delà, je dois vous dire, sur le terrain, aujourd'hui, vous êtes dans les travaux champêtres, vous êtes à l'école, vous êtes en voyage, vous circulez dans la rue, les policiers vous arrêtent et vous vérifient si vous êtes inscrit, parce qu'ils craignent que les populations ne boycottent cette inscription à ce référendum.
Pensez-vous que le peuple puisse voter non?
Le peuple peut voter non, mais qui va vérifier son non ou son oui? Ce sont les policiers, ce sont les militaires, ce sont ces milices dont il a couru. Ça veut dire s'il constate que le non a remporté, ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est de changer les urnes et dire voilà, il faut les bourrer de oui et essayer de faire disparaître le non qui aurait été voté par la population.
C'était Frédéric Bamvougi Nyuvira, président du Frodebou.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Niger, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'assistance dans le pays cette année, selon les Nations Unies. Pour faire face à cette situation, les partenaires humanitaires du Niger ont besoin de 338 millions de dollars. Un plan de financement a été lancé à cet effet hier, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La situation humanitaire du Niger est marquée par la combinaison de vulnérabilités chroniques et aiguës, se caractérisant par une insécurité alimentaire dans des zones telles que Diffa et Tillaberi, une malnutrition qui touche plus d'un million d'enfants, des déplacements prolongés des populations, particulièrement à Diffa du fait de Boko Haram, mais aussi par des épidémies saisonnières et des inondations récurrentes. Les personnes touchées par ces vulnérabilités sont estimées à 2 300 000, soit près de
de 400 000 personnes de plus que l'année précédente. Binta Djoubo, coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger.
Si vous voyez qu'il y a une augmentation, c'est que la situation a évolué. On l'a dit, il y a la situation sécuritaire qui impacte les populations et que cette situation, on ne l'avait pas l'année dernière. Nous prenons aujourd'hui le front Mali-Burkina, c'est un nouveau front qui s'est développé. Donc naturellement, il y aura plus de personnes affectées que l'année dernière. Ce plan que nous avons lancé ce matin va permettre à faire face à l'insécurité alimentaire à Difa et dans la zone de Difa et de Tillabéri et également prendre en charge des enfants qui souffrent de malnutrition modérée et aiguë.
C'est la septième année que ce type de plan est élaboré par les acteurs humanitaires du Niger pour faire face à l'urgence. Celui de 2017 a été financé à hauteur de 80%. Les autorités du pays espèrent que ce nouvel appel au financement connaisse le même succès. Yabila Maman, responsable de la cellule crise alimentaire au cabinet du Premier ministre.
Le plan qui a été déroulé en 2017, le niveau de réalisation a été à hauteur de 79%. C'est un bon niveau de réalisation. Vous avez vu aussi bien Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que Madame la coordinatrice humanitaire a lancé un appel à tous les acteurs, donc y compris les partenaires techniques et financiers, pour qu'on se mobilise autour des objectifs de ce plan-là pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Répondant à certaines critiques qui leur reprochent un accent trop mis sur l'humanitaire aux dépens du développement, la coordonnatrice humanitaire de l'ONU pour le Niger a affirmé que le sommet humanitaire mondial de 2016 a effectivement recommandé la recherche de complémentarité entre l'humanitaire et le développement, ce à quoi il s'attelle au Niger, dans la région de Difa notamment, qui a un grand potentiel pour cela. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Un film qui fait l'actualité en ce moment au cinéma, il s'agit de Black Panther du réalisateur Ryan Coogler. C'est l'histoire du roi d'un pays africain technologiquement avancé et dans son rôle, il est vêtu d'un costume de panthère et il est invincible au combat grâce à des pouvoirs mystiques. Le film, qui a coûté plus de 200 millions de dollars, fait le buzz dans le monde entier et l'une des raisons est qu'il met en relief la culture africaine. Le reportage de Penelope Poulou, présenté par Jean-Roger Bion.
Nous sommes à la maison.
L'histoire se déroule à Wakanda, un petit pays imaginaire en Afrique qui cache un grand secret. Construit sur vibranium, la planque la plus puissante de la planète, Wakanda possède la technologie et le pouvoir qu'aucun autre pays n'a jamais vu.
Ce qui se passe maintenant détermine ce qui arrive au reste du monde.
Après la mort de son père dans une attaque terroriste, T'Challa, incarné par Chadwick Boseman, assume les pouvoirs de la Black Panther et devient le nouveau roi. En fait, le cinéaste Coogler a créé un super-héros africain contemporain. Écoutons ses motivations.
Qu'est-ce qui définit Panthère Noire? Vous avez ici le thème de la responsabilité politique, vous avez le costume, les griffes, vous avez la force, nous avons le fait qu'il est africain, ce qui le rend unique.
Le film pose la problématique des risques et des avantages de l'isolationnisme politique d'un pays avancé. Wakanda devrait-il partager son pouvoir et sa technologie avec le reste du monde ou cacher et protéger ses ressources aux étrangers?
C'est ma responsabilité de m'assurer que Wakanda n'étant pas entre les mains d'une personne comme vous.
Le scénario du film, en plus du héros noir, ont captivé l'imagination du public dans le monde entier, affirme l'actrice Lupita Nyong'o. La célèbre actrice d'origine kényane joue le rôle de Nakia, une espionne au service de Wakanda et dont T'Challa est amoureux.
We have here a Marvel universe that is unapologetic.
Nous avons ici un univers qui dépeint le noir et nous voir nous-mêmes assumer un pays africain avec des rois et des reines et des guerriers, c'est tellement inspirant. Un pays aux grandes ambitions qui donne un nouveau souffle à l'esprit humain.
Dans une interview à VOA, Nate Moore, le producteur de Black Panther, et Ruth Carter, qui a conçu les costumes, ont dit que le but du film était de mettre en valeur la culture noire.
Généralement, dans le cinéma, quand on voit l'Afrique, c'est la pauvreté, le pillage des ressources. Le film met en avant un pays qui est le plus technologiquement avancé au monde.
Les vêtements colorés de Carter reflètent la tradition africaine et mettent en valeur les personnages, en particulier les femmes.
Ce sont des combattants réels, ce sont des généraux, ils ont des armes, ils doivent porter des armures. Mais ensuite, nous les avons fait d'une belle manière, les couleurs sont renforcées, l'armure ressemble à des bijoux. Les corps, d'une certaine manière, rendent hommage à leur histoire.
Selon M. Moore, le producteur du film, rien n'a été négligé, à commencer par le casting. Chaque détail a été minutieusement pris en compte.
Nous avons fait des grands efforts et avons eu beaucoup de conseillers culturels et une grande partie de nos acteurs viennent d'Afrique. Même notre coach pour les langues, Beth Maguire, et tous les figurants voulaient refléter l'Afrique. Je pense que pour le public afro-américain, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce film et, je l'espère, de l'inspiration par rapport aux origines des Afro-Américains.
Que ce soit par la force de son message sur la fierté noire ou l'émancipation de la femme, ce film ne manquera pas de marquer les esprits et devrait battre des records dans la catégorie des super-héros.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Sims Loumami qui l'a réalisé. Merci également à Sylvain Franklin à la console. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Excellent week-end à tous.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Michael Raynor, a ouvert le 6 février 2018 à Addis Abeba un atelier de l'US Alumni Global Health. Cette rencontre réunissait 22 anciens boursiers de programmes d'échange financés par le gouvernement des États-Unis. Les délégués venus d'Éthiopie, du Lesotho, du Malawi et de la Tanzanie ont échangé sur les meilleures pratiques de communication en santé publique. L'atelier leur a aussi fourni des outils pour la promotion d'une attitude proactive concernant les soins de santé à travers l'utilisation des données et des stratégies. L'initiative appuiera également la mise en place d'un réseau d'échanges entre professionnels de la santé publique. Si nous n'arrivons pas à fournir les soins de santé à nos concitoyens, nous ressentons la douleur bien au-delà des effets de la maladie. Nous voyons l'impact négatif lorsque les enfants malades ne peuvent pas aller à l'école. Nous voyons les coûts lorsque des parents malades ne peuvent pas travailler. Et nous souffrons pour les opportunités manquées des personnes décédées prématurément et celles qui sont marginalisées et stigmatisées du fait de la maladie. Vous êtes ici parce que vous comprenez ces défis et êtes prêts à faire la différence, a déclaré l'ambassadeur Raynor aux participants. Tout comme vous, a-t-il ajouté, les États-Unis reconnaissent l'importance d'une approche coopérative et multidisciplinaire des défis sanitaires mondiaux. Diverses agences comme l'USAID, les centres de contrôle des maladies, le corps de la paix, le département de la défense et le bureau des réfugiés du département d'État travaillent sur une variété d'angles pour améliorer la santé de peuples en Afrique et dans le monde. Toutes ces agences sont représentées au sein de l'équipe de l'ambassade américaine en Éthiopie, œuvrant en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien, la société civile, les ONG et la communauté des donateurs. L'ambassadeur Raynor a rappelé aux participants à l'atelier d'Addis Abeba que d'ici 2050, la population africaine excédera les 2 milliards d'âmes avec 70% de personnes de moins de 35 ans. À satisfaire les besoins de 2 milliards de personnes n'est pas chose faisable pour chacun de nous individuellement. Les États-Unis sont engagés à faire leur part, mais cela nécessite des partenaires et des leaders forts comme vous, œuvrant ici sur le continent pour accomplir cette mission. Vous aurez aussi besoin de vous aider mutuellement, raison pour laquelle des telles rencontres sont importantes, a expliqué l'ambassadeur Raynor, ajoutant « Vous pouvez certainement compter sur mon engagement, celui de mes collègues et du gouvernement américain. »
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.